Mirage. Jacques Pradel, comme d'habitude, une émission insolite, mais j'ai annoncé au début de cette soirée, lorsque je faisais le générique de l'émission, j'ai annoncé que vous nous réserviez une surprise. Je n'ai pas dit laquelle. D'ailleurs, je ne le dirai pas maintenant, c'est à vous qu'il appartient de le dévoiler. Je dirai simplement que c'est une surprise très intéressante, très enrichissante et en même temps fort agréable à entendre.
Oui, une émission peut-être un tout petit peu différente de celle que ceux qui écoutent France Inter à cette heure-ci ont l'habitude d'entendre. C'est qu'en général, depuis quelques semaines maintenant, on parle ici de ce qu'il est convenu d'appeler le paranormal. C'est-à-dire, tout simplement, on parle de ce que j'appelle, moi, la face cachée de la vie des gens. De ces événements insolites, bizarres, qui viennent parfois nous dire qu'il n'y a pas que le concret, qu'il n'y a pas que la matière, qu'il n'y a pas que le travail, ni la vie raisonnable. Vous savez, ces émissions, moi, je ne les fais pas du tout pour prouver quelque chose, ni pour dire, d'ailleurs, à ceux qui écoutent, prenez votre mal en patience, la vie sur Terre, ce n'est qu'un passage, souffrez, etc., laissez-vous faire, et puis vous verrez, ça ira mieux après. Bon, ce n'est pas du tout ça. Je crois que c'est facile aussi de nier ce qu'on ne peut pas expliquer par les moyens qui sont les nôtres actuellement. Ce que je veux dire, moi, ici, chaque dimanche, c'est qu'il y a peut-être un pont entre l'intérieur des choses ou des gens et l'extérieur, et qu'en se mettant à l'écoute, en sachant se mettre à l'écoute d'une autre réalité, eh bien, ça peut permettre aux gens d'élargir leur conscience, tout simplement. Et si tant de gens, vous savez, militent contre le paranormal, eh bien, c'est parce que le paranormal, l'irrationnel, comme ils disent, ça dérange, ça ne parle pas le même langage stéréotypé qui circule dans le monde qu'on nous a fait. L'irrationnel, ça fait des pieds de nez à la science, mais l'irrationnel, ça fait aussi des pieds de nez à la politique, parfois. L'attitude la plus paranormale en ce moment, à mon avis, bah, on la dissèque tous les matins, on l'analyse, on la triture tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision. Ce qui se passe en Iran, voyez-vous, je trouve que c'est complètement paranormal. Et on s'aperçoit qu'à force de classifier, de théoriser, de rationaliser, eh bien, un jour, on est complètement désarmé devant une attitude irrationnel. Alors évidemment, ce n'est pas le propos de cette émission de parler de ce qui se passe actuellement en Iran, mais quand même, à force de s'asseoir sur l'imagination des gens, sur les histoires de revenants, de fantômes, de prémonitions, de voyances, à force de dire aux gens qu'il n'y a qu'une seule réalité concrète, on s'aperçoit que l'irrationnel, eh bien, il se manifeste quand même envers et contre tout. Et à mon avis, c'est ça, la véritable culture. La véritable culture, c'est pas une scène de théâtre dressée à l'intérieur d'une usine. La véritable culture, elle est dans la tête des gens, et souvent des gens qui n'ont pas de diplôme. Et c'est ce que tout au long de l'année dernière, on avait essayé de faire avec Henri Gougaud dans ces émissions qui portaient déjà un petit peu sur les mêmes sujets. Et jamais, jamais, au grand jamais, nous n'avons fait comparaître ceux qui avaient vécu un événement insolite ou irrationnel devant une sorte de tribunal. Jamais nous n'avons fait de table ronde avec des spécialistes pour essayer d'expliquer l'inexplicable. Je crois que quand on ne peut pas prouver le mouvement, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de marcher. Et bah, c'est ce que je propose à ceux qui écoutent cette émission de faire. Et ce soir, effectivement, je vais vous faire entendre quelques enregistrements où il va être question de coïncidences bizarres, de rêves prémonitoires, de revenants, de fantômes. Et pour en parler, figurez-vous, je n'ai pas demandé à un spécialiste, à un homme en blouse blanche de venir, mais à un poète. Parce que seuls les poètes, à mon avis, sont capables de trouver le vrai qu'il y a dans le faux et de voir le faux qu'il y a souvent dans le vrai. Mon invité ce soir, c'est Léo Ferré. Bonsoir, Léo Ferré.
Bonsoir.
Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit au tout début de cette émission?
Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, vous avez trouvé, je pense, ce qu'il faut dire. Puis moi, je n'en sais pas assez sur votre propos pour m'exprimer à propos de votre papier. Mais vous avez raison. Vous savez, lorsque on s'assoit longtemps sur l'imagination des gens le jour où des circonstances font qu'ils s'en aperçoivent, ils peuvent vous foutre en l'air et puis commencer à imaginer. C'est un peu peut-être ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans
un certain moment. C'est ce que vous disiez aussi dans ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Alors je voudrais dire aussi que vous n'êtes pas venu tout seul, mais avec Jean-Roger Cossimon qui est là. Bonsoir Jean-Roger Cossimon. Et qu'on va, parler évidemment des sujets qui sont un petit peu les nôtres dans cette émission, c'est-à-dire de tout ce qu'on qualifie en général d'irrationnel, de bizarre, mais qui pourtant est vécu par des tas de gens et qui ne sont pas forcément des menteurs. Alors je crois qu'effectivement, quand on ne peut pas prouver un événement irrationnel, le mieux c'est d'essayer d'additionner les témoignages et puis de se rendre compte qu'un petit peu partout dans le monde, dans tous les pays et à toutes les époques finalement, on vit des choses qui ne sont pas courantes. J'ai reçu l'année dernière une lettre dans l'émission qu'on faisait avec Henri Gougaud ici. Et c'est une coïncidence bizarre. Je vous la raconte parce que je sais que vous avez vous-même vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, une série de coïncidences dont vous allez nous parler. C'est une très belle histoire en plus, cette lettre. C'est une jeune femme qui nous l'a envoyée. Quand elle était petite fille, quand elle avait 10 ou 11 ans, dans le village où elle habitait, il y avait un petit garçon qui avait son âge et qu'elle ne connaissait pas, à qui elle n'a jamais parlé. Ce petit garçon la suivait un petit peu partout à la trace, à l'église, il se mettait 2-3 chaises derrière elle. Et puis... C'était son grand amour d'enfant, mais il était tellement timide qu'il n'avait jamais osé le dire à cette jeune fille, qu'il l'aimait finalement. Et puis le temps a passé, et puis ils se sont perdus de vue, et un jour, alors que cette jeune fille avait 17-18 ans, on lui a dit, est-ce que tu connais Jules ? Jules, tu te souviens ce petit garçon qui, quand tu avais 10-11 ans, n'arrêtait pas de parler de toi, tout le monde voulait te rencontrer ? Eh bien, Jules est très malade, Jules va partir dans le sud de la France, en sanatorium, et il a exprimé un désir, c'est de te rencontrer, enfin de pouvoir te voir. Alors elle lui a donné rendez-vous à son bureau, et puis là, le garçon s'est trompé. Il a suivi quelqu'un d'autre, et comme il était très timide, il n'a pas osé revenir et se renseigner pour savoir où était donc la jeune fille qu'il voulait voir. Et il est parti en sanatorium, et puis elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Et un jour, un après-midi, elle était en train de faire la lessive dans la cuisine de sa maison, et sa mère l'a appelée dans une autre pièce, alors elle a laissé sa cuvette avec sa lessive en plan, elle est partie. Et lorsqu'elle est revenue dans cette cuisine, il était 4h de l'après-midi, c'était un samedi, elle a vu que l'eau s'était, la mousse s'était retirée sur le pourtour de la cuvette, il y avait un petit peu d'eau au milieu et puis une frange d'écume, et ça faisait un cœur. Et elle a appelé sa mère et tous ses frères, ses sœurs en disant, venez voir comme c'est formidable, il y a un cœur. Et sa mère lui a dit, ça doit être un bon signe. Et l'histoire est un petit peu malheureuse, elle se termine mal, mais je pense que vous l'avez imaginé déjà, oui. Ce garçon est mort effectivement ce samedi-là à 4h.
Terrible.
Ah, une coïncidence tout à fait étrange. Vous-même, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la coïncidence qui vous a le plus frappé récemment, parce que...
Je pense à l'habitude, lorsqu'on ne comprend pas, et d'ailleurs vous le savez, les choses on dit « Oh, c'était une coïncidence !» Mais ou alors dit « C'est le hasard !» Mais je pense qu'il y a des choses qui arrivent qui sont beaucoup plus, beaucoup plus rares que mettons, c'est simple à dire et c'est bébête, mais les gens comprennent que de gagner un gros lot extraordinaire. Par exemple, moi je vais vous raconter, je vais essayer d'être court parce que c'est une histoire qui m'a envahi et qui m'a fait beaucoup d'impression, sans que cela m'ait fait peur du tout. Mais d'ailleurs, je disais à votre frère tout à l'heure qu'il s'agissait de M. Doublan, et il m'a dit que je chantais M. Doublan en 48.
Vous chantez ça au Quadlibet dans la cave.
Oui. En 47, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Monsieur Doublan. À propos de ce pape qui s'appelait Pie XII, je trouve qu'il avait eu une attitude, mettons, je suis modeste, de non-intervention sous l'occupation, qui était gênante. Mm-hmm. Et bon, j'ai dit ça. C'est peut-être par ce fait-là qu'on dit que moi, j'envoie des messages. Mais si c'est un message, alors d'accord, vous comprenez. Et je dois le faire. Et alors, j'ai chanté cette chanson au piano, je m'accompagnais au piano pendant 3, 4 ans, 5 ans. Après, j'ai quitté le piano, j'ai chanté debout, dans les music-halls, j'ai été accompagné par un pianiste, et je n'ai plus chanté cette chanson. On a réenregistré cette chanson avec orchestre d'une autre maison de disques en 72, j'ai chanté une fois à Bobino, et puis voilà. On ne me demande jamais de chanson. Quand on demande une chanson, je sais pas encore maintenant, on ne me demande pas beaucoup, les gens... comme ça, ils écoutent bien et puis ils sont respectueux. J'aime pas ce mot-là, mais enfin, des fois, ça fait du bien au cœur que les gens vous respectent, n'est-ce pas, comme je respecte les autres. Et en 78, pour la cinquième fois, j'étais appelé dans une province de France, qui est le Lot, pour rencontrer un personnage officiel qui m'avait convoqué. J'étais obligé d'y aller. Et vraiment, ça m'ennuyait beaucoup. Et parce que je faisais 1200 km en voiture pour aller voir ce type, n'est-ce pas? Bon. Et alors j'ai téléphoné à mon ami Richard Marsan, qui s'occupe de mes affaires. Je lui ai dit, écoute, fais-moi chanter dans ce coin-là. Il a téléphoné à quelqu'un avec qui on travaille, et j'ai chanté, il a réuni une chose, et je devais chanter le 27 septembre 1978 à Agen, à Périgueux, le 28 à Agen, le 29 à Carcassonne. Et le 29 dans l'après-midi, je rencontrais ce personnage dont je vous parlais à l'instant. Le 28, le 27, j'entre à Périgueux, une salle de 1000 personnes, une salle pleine, on avait refusé du monde, donc c'était bien organisé, vous comprenez. Bon, et j'étais content. Je n'aurais pas, j'ai dit, je n'aurais pas été chanté s'il n'avait pas été question que je rencontre encore ce personnage pour la cinquième fois. Le lendemain, 28, je chantais à Agen, dans une salle aussi pleine, salle très silencieuse. Je chante sans entracte et mon tour de chant durait 2h20. 20 minutes ou un quart d'heure avant la fin de mon tour de chant, j'ai une chanson qui s'appelle « C'est fantastique » et qui commence, je pense que c'est important, qui dit au début « Je suis l'ordinateur de ton ordre profond, je suis le transistor de tes transits funèbres. Quand je passe, on dirait que tu viens des ténèbres et que de mon soleil, tu tires ta raison. » Il y a une introduction, pas longue, mais enfin, peut-être un petit peu plus longue que les autres. Mm-hmm. Pendant cette introduction, j'attends. Et à ce moment-là, j'entends une voix d'un homme entre 75 et 80 ans, une voix âgée, vous comprenez, qui me dit « Monsieur tout blanc ». Il me réclame donc la chanson. J'ai juste eu le temps de répondre, avant que l'introduction ne finisse, une chose qui m'a paru être une bêtise, et j'ai été honteux, et puis je ne pouvais rien faire, parce que je ne pouvais plus rattraper ce que j'avais dit. Quand il m'a dit « Monsieur tout blanc », j'ai juste le temps de dire « Oh !» Maintenant, il est tout noir. C'était le 28 septembre, le lendemain matin. Marie me réveille à l'hôtel à 10 heures. Elle me dit, tu sais, le pape Jean-Paul Ier, qui a régné un mois, est mort, on ne sait pas, parce qu'il était seul, hier soir, entre 11h et 11h30, et moi, ça s'est passé à 11h25. Voilà.
Comme coïncidence, on ne peut pas rêver mieux. Oui. Ce qu'on appelle une coïncidence exagérée, en tout cas, hein, moins qu'on puisse dire. Jean-Roger Cossimon, dans un petit instant, Léo Ferret est venu à vous faire une surprise. Je crois que vous êtes au courant de toute façon de ce qui va se passer, mais avant qu'on parle de cette chanson, est-ce que vous avez vous-même vécu dans votre vie des événements comme ça, du type de ceux dont on parle souvent ici?
Je ne pense pas apporter quelque chose de très original en disant que j'ai pu connaître tout à coup dans le sommeil l'agonie, la mort d'être très proche. Ça m'est arrivé pour mon grand-père, qui était apparemment en très bonne santé et qui a été emporté par une embolie. C'est un réveil très, très brusque, sans raison apparente. Et naturellement, j'ai regardé l'heure et lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, je savais, à ce réveil-là, je savais que mon grand-père avait quitté ce monde. Et c'est arrivé également pour ma mère. Mais je pense que parmi les auditeurs, il y a certainement énormément, un pourcentage très fort
c'est très, très fréquent,
de ces cas-là. Mmh. Je voudrais passer sur ce sujet intime qui me trouble un petit peu en vous rapportant un souvenir de lycéen. J'ai toujours eu des difficultés extrêmes avec la géométrie dans l'espace, dont mon professeur de mathématiques me disait que c'était l'expression la plus pure de la poésie, et parce qu'il savait déjà que j'avais un petit penchant pour l'écriture. Et j'étais très, avant l'épreuve, l'épreuve de mathématiques du baccalauréat, j'ai dit bon, je me suis résigné, j'étais absolument fataliste, et j'ai dit « Advienne que pourra ». Puis je me suis couché, j'ai dormi. Et j'ai rêvé « Tronc de cône ». Ah, tronc de cône, je me réveille le matin, tronc de cône. Comme je vais au lycée à pied, j'avais à peu près 20 minutes de marche, j'ai emporté mon livre, et j'ai appris, comme j'ai une excellente mémoire, j'ai appris le tronc de cône de la première ligne à la dernière. Et j'ai dit, mon Dieu, on verra. Et j'ouvre ce papier où il y a trois épreuves, et je vois le premier tronc de cône. Alors, ce qui m'a permis d'avoir une note vraiment incroyable dans un truc où j'étais absolument minable. Alors, je pense quand même qu'il y a, c'est peut-être autre chose qu'un hasard. Et puis j'ai d'autres histoires, mais peut-être je vous raconterai ça tout à l'heure.
Oui, on aura le temps d'en parler. Et puis moi, je vous ferai entendre d'ailleurs quelques enregistrements que j'ai sélectionnés. Je vous donnerai un peu vos réactions. Léo Ferré, si vous voulez, on peut aller vers le piano qui est dans ce studio pour la surprise dont je parlais il y a un petit instant. Et vous allez me raconter, avant de commencer à chanter, de quoi il s'agissait très, très précisément. Petite manipulation, retire le casque. Vous allez chanter une chanson, je crois, que Jean-Roger Cossimon vous a envoyée, mais qu'il n'a jamais entendue.
Vous savez, il m'envoie des chansons à chaque mort de pape, alors qu'on est dans la vie. Je lui dis, je lui en veux, parce que, vous savez, il fait des choses que moi, je ne sais pas faire. Et il a un énorme talent. Il sait comment c'est fait une chanson, vraiment. Hein? Beaucoup plus que je ne le sais, moi. Et je le dis sincèrement. Bon, il a envoyé ça au mois d'août. J'avais des copains à la maison, j'ai reçu ça, j'ai lu la chanson, j'ai été très ému. J'ai été au piano, je l'ai chanté tout de suite. Alors j'ai mis sa lettre avec son numéro de téléphone sur mon piano, et puis j'ai dit, je vais l'appeler. Quelques jours après, j'ai fait une cassette, et puis j'ai dit, je vais l'appeler au téléphone, et puis je vais lui faire écouter la cassette. Et puis j'ai pas appelé, et puis j'ai attendu, et ça fait tout de même depuis le mois d'août. Et il avait dû penser que je ne l'avais pas faite. Parce qu'il pensait que je le faisais tout de suite. Or, je l'avais fait tout de suite, comme chacune des chansons qu'il me donne, n'est-ce pas? Mais c'est une exigence. Vous savez, Cossimon, je l'appelle mon capitaine, parce qu'il est capitaine d'un bateau fantôme.
Et moi, il a déjà la casquette.
Hein. Ah, le bateau fantôme de Cossimon. Ouais, il est brumeux, ce type. J'aime bien la brume. Et alors, ça s'appelle Métaphysique Song.
Avec des numéros qui n'en finissent pas, au-dessus des portes fermées, le pare-brise opaque des autos qui se suivent au pas, vitres teintées, noires de fumée, un seuil d'église, d'où sort une mariée gréée de voile blanc, au bras d'un mari pour toujours, mes trois valises. Empli de souvenirs lointains et encombrants, et vraiment de plus en plus lourd. Qui je suis, d'où je viens, où vais-je, j'ai vu, je m'en souviens, la Suisse et la qui passent sont de chair et de sang, mais là, sur ce trottoir, ne disent jamais où ils vont, qu'ils se dépassent, où se croisent, c'est sans se parler, sans se voir, sans même échanger leur prénom. Pas une place pour s'arrêter un peu et s'asseoir sur un banc, ainsi qu'un retraité d'État. Quand le vent charge, là-bas au ciel d'été, l'envol des cormorans sur les falaises d'être tard. Klaxonne des fourgons de police de secours, les marteaux piqueurs émigrés, une ambulance où peut-être se meurt une de mes amours qu'avec le temps j'ai oublié. Cette existence, et tu l'as dit grand Will, n'est que bruit et fureur, le soliloque d'un idiot et le silence n'est plus qu'une rumeur de voix d'animateur et de jingle à la radio. Qui je suis, où je viens, où vais-je, j'ai mes tarpes d'or, harpons interdit, même sur des photos jaunies. Le mec qui lorgne mes trois valises qui, pendant l'après-midi, ont pris du poids et ont grandi. Quelqu'un qui cogne au mur de ses voisins qui font encore l'amour avec le dialogue assorti. Un flic, un cogne, habillé en plombier, demain au petit jour, viendra m'attendre à la
Bravo, Léo Ferré, en direct de ce studio 135 de France Inter. Et c'est une chanson, évidemment, qui a tout à fait sa place dans cette émission, Roger Caussimon. Mais j'imagine d'ailleurs que quand on écrit des chansons, il doit bien y avoir quand même quelques phénomènes tout à fait bizarres, non, qui se passent.
Eh bien voilà, je dois respirer un petit peu. Tout ce que je pourrais dire à Léo, ça serait au-dessus, c'est au-dessus. Et bien au-delà du bravo et du merci. Et je crois justement rêver en ce moment. Je suis très heureux.
Une chanson que vous enregistrerez.
Ah oui, bien sûr, mais je lui ai demandé de... Et étant donné qu'on n'a pas un âge de petit garçon, un de ces jours, on va se tailler de l'autre côté de l'imagination. Hein. Alors je lui ai dit, écoute, on va faire un disque nouveau tous les deux. Voilà. Alors je crois que... Il y a travaillé déjà, il m'a apporté un texte tout à l'heure que j'ai vu, dont il veut changer un peu la fin, il veut travailler la fin, ça s'appelle La Guerre, et c'est pas mal du tout.
La chanson qu'on vient d'entendre, en tout cas, je rappelle le titre, c'est Métaphysique Song. Alors je vous propose une chose, donc, c'est d'écouter maintenant, d'écouter quelques enregistrements que j'ai préparés pour savoir ce que vous en penseriez, l'un et l'autre. Il s'agit justement de ce qui se passe quelquefois de l'autre côté. C'est une histoire de revenant, c'est tout à fait bizarre. C'est l'histoire d'un non pas d'un crime posthume, mais de quelqu'un qui a vu se dérouler devant ses yeux quelque chose qui avait tout à fait l'air d'un assassinat, mais par des personnages qui venaient de très très loin apparemment. C'est un garçon qui s'appelle Henri Doutrelot, qui nous avait envoyé son témoignage, qu'on est allé le voir avec un magnétophone. Il nous a raconté, ça s'est passé en Belgique il y a quelques années, il était étudiant en médecine, et puis avec quelques copains, un jour, ils ont été invités à dîner dans une espèce de vieux manoir du 18e siècle, dans un endroit très très beau. Puis le repas s'est déroulé, et lui, Henri Doutrelot, a été un peu fatigué, enfin, il y avait une espèce d'angoisse, il ne se sentait pas bien. Alors il est parti se coucher avant tout le monde, avec les plaisanteries de rigueur, évidemment, on lui a dit qu'il n'est pas bien le coup. Il s'est retrouvé dans une chambre ancienne, qui n'avait certainement pas, dont le décor en tout cas n'avait certainement pas changé depuis le 18e siècle, dans un lit, enfin, vous savez, avec ses odeurs de vieille maison. Et puis, il était de plus en plus oppressé, de plus en plus angoissé. Et écoutez, voilà ce qui s'est passé ce soir-là.
À un moment donné, j'étais donc sur mon lit, et je vois une exprimer l'impression que ça peut faire. C'est quelque chose de terriblement angoissant, peut-être plus que l'image.
Voilà donc le témoignage brut de ce garçon. Il a vécu ça il y a quelques années à peine, hein, et puis c'est un garçon tout à fait normalement constitué. Vous n'avez jamais vu de fantôme, Léo Ferré?
Non. Voilà, c'est pas... Ça doit être impressionnant quand même de voir...
Surtout un assassinat. Hein.
Oui.
Plus, enfin, deux fantômes, c'est rare quand même. Hein, oui. Où il parade du bizarre.
Et puis trouver, quand même, s'il trouve ma chambre demain pour s'entretuer, ça m'ennuierait. On ne peut pas intervenir. D'ailleurs, pourquoi intervenir? C'est leur affaire.
Hein? Vous avez eu un coup de fil bizarre il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui.
C'était en France ou en Italie?
L'Italie.
En Italie.
J'ai reçu un coup de téléphone, je décroche. Et c'est une voix de femme. Je dis allô, je voudrais parler à Monsieur Ferré. C'est moi, madame. De la part de qui? Elle me dit, je suis la mort. Alors, j'ai dit, à quel sujet, madame? Elle m'a répondu, j'aime bien ce que vous faites. Et alors je lui ai dit, moi aussi, madame, j'aime bien ce que vous faites.
Avec la bande du disque, mon prochain 33 qui doit sortir dans une dizaine de jours.
Alors on va écouter tout de suite une de ces toutes nouvelles chansons de Jean-Roger Cossimon. Zofrène, donc une toute nouvelle chanson de Jean-Roger Cossimon qui va sortir sur disque dans quelques temps. Léo Ferré, on peut revenir un petit peu à nos sujets bizarres, étonnants, parce que on avait bavardé de tout ça il y a quelques jours et on avait raconté une histoire vraiment difficile, effectivement difficile à croire, mais qui a dû compter beaucoup pour vous dans votre vie. C'est vraiment l'événement, c'est ce qui passait à l'Olympia.
Oui, puis à la radio c'est difficile, il faut me voir raconter ça parce que je fais des gestes en refaisant ce type un peu que j'ai vu. C'était en 72 à l'Olympia, le premier soir. Dans la rue des artistes, il y a un garage où je mettais la voiture, un parking. Et je sors, je rentre, j'arrive devant la loge. Il y avait un type comme ça. Et immédiatement, comme la pensée va beaucoup plus vite que le temps de la raconter d'ailleurs, je me dis en voyant, je dis, toi t'as été quelque part, t'as été te mettre un nez, t'as demandé un front de machin, puis t'étais trompé, t'étais pressé, alors ça va pas bien quoi. Ce type, il avait des lunettes, il avait le sourire, il parlait pas, il a tendu la main, il dit bonjour monsieur. Alors je suis rentré dans la loge. J'arrive en scène, il était deuxième rang. Bon, je peux les recoller parce que premier, deuxième rang, à l'Olympia, on voit déjà, on devine en tout cas. Le deuxième jour, j'arrive, toujours au même endroit, même type, avec la main tendue, bonjour monsieur, je rentre. Le troisième jour, alors je vais en scène, au deuxième rang, l'autre côté. D'autres
quelques minutes après, donc.
Alors là, il y avait le temps de rentrer.
C'est ça, ouais.
Bon. Le troisième soir, j'arrive, la même chose. Je me dis, c'est quand même ce type. C'est un admirateur, bizarre, il ne parle pas, il n'a rien du tout. Quoi. Je rentre, je sors, et la même chose, il était encore. Je le vois encore dans la salle. Quoi. Bah, ça commençait à me faire un peu d'effet, quand même. Et le quatrième soir, c'est le dernier soir où je l'ai vu, je n'ai jamais pu ce type. Hein. Le dernier soir, je sors du parking, donc j'ai la rue à traverser un peu en biais pour arriver à la porte des artistes de l'Olympia, et je vois le type là-bas, il était vraiment reconnaissable, il était à 40 mètres, il regardait la maison d'en face, l'autre trottoir. C'est-à-dire qu'il ne me regardait pas moi, quoi. Je le regardais. Et je rentre à l'Olympia, entre les artistes, j'arrive dans la loge, il était là, comme ça. Alors ça m'a fait un peu froid dans le dos, là. Je dis, putain, il va vite, ce type. Hein,
comme il était dans la rue, quelques secondes avant. Et,
oui. Et alors, temps, voilà, je rentre derrière les portants, enfin en coulisses, quoi, au moment où je vais rentrer en scène, il était avec moi derrière, là. Il était avec moi, il m'avait suivi, il était encore là. Et c'est le dernier soir, hein. Je suis rentré en scène, j'arrive, il était au deuxième rang. Voilà. Et alors, quelques temps là, je faisais une tournée avec Charles Bois, chanteur canadien, que j'aime beaucoup. Donc en février 73, et il y a des jeunes étudiants qui sont venus, je ne sais pas, ils faisaient partie d'un groupe. Ils avaient un agra. Donc j'ai dit, comment on a un agra, on sait le faire marcher. Quoi.
Ils m'ont interviewé. Ouais.
Comme c'était une chose qui m'avait impressionné et qui était récente, parmi d'autres choses, j'ai raconté ça, comme je viens de le raconter. Et je monte en scène, que j'arrivais assez tard, un peu après, un peu avant que Charles Bonne finisse, il avait le temps de débarrasser sa sono, puis moi je rentrais en scène, et je rentre, ils étaient tous agenouillés, ils en avaient une dizaine, devant le nagra, et le type qui avait enregistré me dit, vous savez, M. Ferré, alors, rien n'est passé, parce que rien n'a été enregistré.
C'est-à-dire que le magnétophone n'avait pas fonctionné.
Non, alors voilà,
alors
le côté comique, je ne vais pas dire audio, parce qu'il y a un truc comique, qui est drôle, parce que ça vaut le coup d'être dit. Quelques temps après, je vais en Suisse, une émission qui s'appelle Les Eaux de Nuit à Genève. J'arrive, je chante, puis je vois un type que j'avais vu 20 ans avant, il me dit, vous savez, vous rappelez, j'aurais fait de la radio ensemble, alors je fais la radio. Et je lui dis, venez demain, tout à l'heure. Je lui dis, venez plutôt vers 6 heures. Et il me dit, ah oui, ça m'arrange, parce que ma mère est malade, je vais la voir à l'hôpital. Alors, à 6 heures, il arrive à l'hôtel où j'étais, où j'avais donné rendez-vous. Je vois le type rentrer avec trois magnétophones. Trois magnétophones, comme ça, portables, quoi. Je lui dis, oui, alors vous avez du matériel, vous, alors, hein. Et il me dit, oui, parce que je vais les faire marcher tous les trois en même temps, parce que j'ai écouté votre émission hier soir, vous m'avez dit que cette histoire ne passe pas. Alors, moi, je veux l'enregistrer. Voilà.
Et ce jour-là, le magnétophone a fonctionné.
Oui, c'est ça qui est drôle.
Et quel rôle ce personnage
oui,
a
joué? Oui, alors, ça a changé.
Ça a vraiment changé votre
vie. Oui. Ça a changé ma vie.
Vous parlez de votre vie professionnelle.
Oui. Ça a changé ma vie, oui, en général, quoi. Vraiment, il y a un grand changement de vie qui s'est passé. Et je ne sais pas si. On a tout le temps. Je peux vous raconter un truc extraordinaire. Si.
Bien sûr. Et comment?
Oui, parce qu'il y a, chez moi, il y a je dis, un individu. Qui sait quoi, quelqu'un qui intervient dans ma vie, comme ça. J'ai chez moi, j'ai une imprimerie, j'ai un numéroteur. Le numéroteur, chaque fois que vous appuyez, le numéro change. Soit vous n'avez pas besoin de changer. Vous savez? Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Un jour, je me rappelle, je notais des partitions du mal-aimé, des partitions d'orchestre du mal-aimé, pour les musiciens. Et j'allais dire, je me refais, numéro 19, on m'appelle pour manger. Alors je vais manger, et puis je reviens, et sans regarder, je prends la page 20, et puis tchac! Et là, je vois 77. Alors, je dis quand même, j'ai gueulé comme un âne, je dis, qu'est-ce que vous venez, j'ai vu mon fils qui était un peu petit quand même, il faisait pas de je dis, qu'est-ce que vous faites comme ça, ne venez pas m'embêter. Ils m'ont dit non, j'avais mes jeunes beaux-frères qui étaient très jeunes à ce moment-là, parce que vous savez que j'ai une femme très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Alors, il y a forcément des frères qui sont, voilà. Et alors, ils ont un peu grandi maintenant quand même, il y en a un qui mesure 1m82, qui s'appelle Manuel. Bon, et alors, imaginez-vous que, bon, quelques temps après, je ne sais pas, 3 ou 4 jours après, écoutez bien ça, ça c'est extraordinaire. Je recommence à numéroter des trucs. Quoi. Alors j'arrive à la page, mettons, 30, 31, tu vois, et on m'interrompt encore. Je ne suis pas au manger, bon, je laisse mon numéroteur, bon, et puis je vais manger, je fais pas quelque chose, je reviens. Pof, 509. Ah, alors j'ai dit ça, c'est plus possible. Puis je n'ai même pas été gueulé, parce que j'avais tellement gueulé que personne ne s'était risqué à venir changer mon numéroteur. Hein. Bon. Alors 509, alors moi j'ai fait une... J'ai dit que 509, qu'est-ce que ça veut dire 509. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma nièce, qui est dans l'Allier, se mariait le 6 septembre 1974, non, 1975. Voilà, c'est important. Elle se mariait le 1975. Et moi je partais avec mon petit Mathieu, qui était tout petit, qui avait 5 ans. Et Marie n'était pas là, je devais la rejoindre chez ma sœur dans l'Allier. Je devais prendre le train à 6 heures à Florence, m'arrêter à Milan 2 heures, prendre un autre train qui va à Paris, m'arrêter à Dijon. Mon neveu, qui avait une voiture, m'attendait pour me prendre, était à 3 heures de là, il fallait arriver pour rejoindre mes parents, ma sœur et ma femme et tout, et mon beau-frère et mes neveux, dans un restaurant où on mange la veille du mariage. Et alors, je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai regardé j'ai repensé autour du numéroteur avant de partir, j'ai vu 509, je me dis 5 septembre. Hein? Et alors, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Le train, avec mon fils, changé. Hein? Je change à Milan. Je dis à Mathieu, ne me quitte pas. Hein? Et il me dit, non, papa. Alors je me... Et tout d'un coup, je vois un type avec la mine patibulaire. Je voyais des mines patibulaires partout, forcément, avec les cheveux frisés, qui descendaient comme ça. Il me regardait, il regardait mon fils. En tout cas, je pensais. Tout d'un coup, je me suis précipité sur lui, j'ai dit, « Et alors, qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Il m'a dit, il m'a regardé, comme ça, comme si j'étais vraiment un petit d'ailleurs. Quoi. Qu'est-ce que c'est, ce mec avec ce... J'ai pris le train, et mon fils me dit une chose énorme, qui m'a fait râler dans le compartiment, où il y avait un silence, le train était bondé. Tout d'un coup, il a un peu l'accent, il me dit, « Mon fils, et il me dit, papa, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai écouté, il me dit, « J'aime les gens. » Comme ça. Je vous dis ça parce que ça m'avait frappé. J'arrive à 7h30, 8h, mon neveu m'attendait à Dijon, il me prend la voiture, il y avait le brouillard, et puis il allait vite, j'ai dit, « Dis donc, tu conduis bien ? Tu connais bien, oui ?» Il me dit, « Oui, je connais très bien, très bien. » Et je me disais, « Il faut que j'arrive à minuit. »
Ça se passait quelque chose.
Oui, oui, oui. Alors, j'arrive, on arrive là-bas, je mange. Ma femme n'attendait pas son fils, je lui avais apporté son fils comme ça, sans lui dire. C'est pour ça que tout ça t'a m'ennuyé, vous comprenez? Et alors imaginez-vous que je finis, et à minuit deux, je dis, ah, maintenant, je vais vous raconter. À ce moment-là, ma sœur, qui est pharmacienne dans l'Allier, ne me laisse pas finir. Elle me dit, tu sais Léo, aujourd'hui, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur de Paris qui est un producteur de spectacle. Alors, pour le Palais des Congrès, avec l'orchestre, c'est d'accord.
On avait appelé ça les objets malins, nous, l'année dernière, quand on avait reçu beaucoup d'histoires de ce type-là,
oui.
Les chiffres en folie, comme ça. Oui. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission et on avait convenu qu'on
oui.
terminerait cette émission en direct également, puisque vous avez commencé en direct, on va peut-être se quitter comme ça. Je vous laisse juste le temps de rejoindre le piano, et je crois qu'il n'est pas tellement besoin de présenter ce qu'on va entendre.
Façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Allez, viens avec moi, je t'emmène en voyage avec Baudelaire.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble.
Les moules sont d'une texture nouvelle. Je vous avertis qu'ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas dès ce jour le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre, il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière, la nuit, c'est le jour.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, et les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre.
Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin de rue sont aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, là, tout n'est qu'ordre et beauté.
Allez, viens!
Et volupté.
Voir sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde.
Désespoir est une forme supérieure de la critique.
Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience.
Et voilà. Et
là, tous mes corps très beauté.
Luxe,
calme et volupté. Viens, viens, viens avec moi, viens, viens, viens.
Le
code civil. Nous en parlerons plus tard, le code civil. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge, par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Merci, Léo Ferré. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être pour parler de ces sujets, peut-être pour parler d'autres sujets. En tout cas, je pense que les chansons qu'on a entendues, c'est un peu
elles nous ont enrichi considérablement notre soirée.
Voilà. Vrai. Et ben, il est l'heure de se dire au revoir. Je dis au revoir.
Eh bien, au revoir Jacques, au revoir Léo Ferré,
au revoir Jean-Roger Cossignon.
Et puis, à la semaine prochaine, bien entendu.